Donc, bonjour à tous. Donc, j'ai déjà été présentée par M. Fournier, mais je vais me représenter, j'avais prévu. Donc, je suis Anne-Lise Devel. Je suis docteur en géosciences de l'environnement et ma spécialité, c'est la paléoclimatologie. Plus précisément, je suis une paléoclimatologue continentale, c'est-à-dire que j'établis la variabilité climatique et paléoclimatique à partir de sédiments prélevés dans les continents. Donc ma présentation va s'articuler en 5 parties. Dans la première partie, je vous présenterai la paléoclimatologie, dans un domaine assez large. Ensuite, dans une deuxième partie, je vous présenterai le métier de paléoclimatologue avec sa démarche et les outils qu'il utilise. La troisième partie concernera la variabilité paléoclimatique, donc la variabilité climatique passée. Et dans une quatrième et la cinquième partie, je me concentrerai sur le changement climatique actuel et le changement climatique futur. Donc la paléoclimatologie, c'est la science qui s'intéresse aux modifications passées du climat. Le climat, ce n'est pas le temps ou la météo. Le climat est défini sur une longue période de temps. Il est déterminé pour chaque saison à partir des conditions moyennes de température, de pluviosité, d'enneigement, de vent et d'humidité. Mais ce n'est pas seulement la moyenne de ces paramètres qu'on regarde, c'est également les écarts à cette moyenne qui sont étudiés sur une longue durée pour définir les zones climatiques. Donc la machine climatique est une machine complexe. Une machine dans laquelle l'énergie solaire est à l'origine des interactions entre océans, atmosphère, continents et zones englacées au pôle. Les indicateurs ou proxys, puisqu'on fait beaucoup d'anglicisme en paléoclimatologie, donc les indicateurs climatiques y sont plus ou moins sensibles. La machine subit différents forçages externes et par les rétroactions au sein de cette même machine, on a un enregistrement qui présente les interactions de la machine climatique. Donc c'est une science qui est relativement jeune. L'homme s'est toujours intéressé à ses relations avec le climat. On a notamment des références très anciennes, des références bibliques. On peut penser au déluge, l'arche de Noé, ou encore le mythe de l'Atlantide, qui font référence à des événements climatiques catastrophiques qui seraient à l'origine de destruction ou de complications pour les êtres humains. On a aussi des exemples par exemple, à Montesquieu, qui, dans son livre « L'esprit des lois », fait référence aux relations entre homme et climat, notamment avec des théories qui, maintenant, peuvent paraître un petit peu tendancieuses. Mais, par exemple, Montesquieu pensait que le caractère vif et actif des gens du Nord était lié au climat dans lequel ils vivaient et que, par contre, les gens qui habitaient dans le Sud avaient un tempérament un peu plus docile et un peu plus, mou. D'accord ? Oui.
Je fais une toute petite pause. On aura le meilleur spécialiste de Montesquieu en conférence qui nous parlera entre autres de cela.
Je cite ça.
Donc, Monsieur Jean Barre, comme le navigateur. Voilà.
Donc, des références quand même assez anciennes qui mentionnent les relations entre les hommes et leur climat. La première théorie scientifique robuste qui fait référence en paléoclimatologie, c'est la théorie de Louis Agassiz. Louis Agassiz, c'est un Suisse, il est américano-suisse, et c'est lui qui est à l'origine de la première théorie scientifique sur l'idée d'une grande glaciation passée sur l'Europe. En effet, étant suisse, il s'intéressait beaucoup aux glaciers, au mouvement des glaciers qu'il observait tous les jours, et il avait observé sur ces glaciers des stries glaciaires, donc sur les roches qui étaient sous les glaciers, des stries glaciaires qui étaient liées au rabotage de la roche par la glace. Et il observait également des gros blocs énormes qui étaient transportés par la glace, qu'il appelait des blocs erratiques. Et un jour, il part se promener avec ses collègues, puisqu'à la base, il était paléontologue, il part se promener avec ses collègues en Écosse, il n'y avait plus de glace à l'époque, et il voit ces énormes blocs erratiques et des stries glaciaires sur les roches, sur des roches qui sont dépourvues totalement de glace. Et il se dit, si ces blocs erratiques sont là, si on observe des stries glaciaires, c'est qu'à un moment donné, dans le passé, il y a eu un glacier à cet endroit. C'était donc la première théorie de la glaciation. C'était en 1837. En 1909, Penck et Bruckner, eux, ont avancé dans, les hypothèses des glaciations et ont proposé, plutôt qu'une théorie monoglaciaire, c'est-à-dire une seule grande glaciation dans le passé, plusieurs glaciations qu'ils ont nommées donc du plus ancien au plus récent, le Günz, le Mindel, le Ries et le Wurm. Le Wurm étant la dernière période glaciaire qu'on ait connue, qui s'est terminée il y a environ 20 000 ans. Donc maintenant, je vais vous parler de mon métier, le métier de paléoclimatologue. Donc, le paléoclimatologue a des objectifs. Le premier objectif, c'est de mieux comprendre les climats du passé et leur impact et rétroaction sur les écosystèmes. Il sert également, le paléoclimatologue, en collaboration avec les statisticiens et les climatologues actuels, à envisager et préparer l'avenir dans un contexte de changement climatique actuel. Donc, il a des défis à relever, et pour cela, il utilise des méthodes. Donc, ces méthodes, je vous les présenterai plus précisément dans les prochaines diapositives, mais elles se décomposent en trois parties. D'abord, trouver un objet d'étude adéquat, c'est-à-dire un objet d'étude qui couvre la période qu'on est censé pouvoir étudier, que ce soit à l'échelle du million d'années ou à l'échelle de la dernière centaine d'années. À partir de cet objet d'étude, il est primordial d'établir la chronologie de la séquence sédimentaire ou rocheuse qu'on va étudier. Donc pour cela, on utilise différentes méthodes que je vous présenterai également par la suite. Et enfin, il faut choisir des outils de reconstruction du climat qui soient adaptés à la question scientifique qu'on se pose. Donc je vais vous présenter quelques objets d'études qui sont utilisés par les paléoclimatologues. Un premier groupe concerne les coraux, les stalagmites, les cernes d'arbres ou les travertins. En effet, en prélevant ces échantillons, on voit qu'ils présentent de très fines lamines qui sont à l'origine des précipitations ou des zones de croissance qui se sont faites en lien avec le climat. Donc en étudiant très finement ces zones de croissance, on peut reconstituer à haute résolution les variations climatiques, que ce soit à l'échelle de la centaine d'années ou alors du million d'années, selon l'âge du spéléothème ou du corail ou du tronc d'arbre. D'autres objets d'étude sont les sédiments et les roches qui peuvent être d'origine lacustre, comme mes objets d'étude à moi, puisque je travaille plutôt sur les continents. Ça peut être aussi d'origine marine, des carottes marines par exemple, et ça peut être également les carottes de glace. Donc ici, je vous montre quelques outils qu'on utilise. Donc, pour reconstituer le climat à l'échelle des millions d'années, le plus souvent, on utilise directement les affleurements, les grandes falaises de roches que vous voyez. On les échantillonne et on reconstitue le climat à partir de ça. On peut également utiliser les carottes. Donc ici, je vous présente une photo du Marion Dufresne, qui est notre navire océanographique, qui sert à établir les longs enregistrements marins. Quand on fore dans les lacs, comme moi, on est un petit peu plus artisanal. Hein. On utilise souvent des zodiacs avec un tube et puis un petit carottier à main. Hein. Mais bon, ça donne de très bons résultats aussi. Et puis voilà, ça, c'est les dernières innovations. Ce sont les carottes de glace avec des gens qui partent pendant 6 mois dans l'Antarctique pour forer à moins 30 degrés toute la journée. Ça leur sert bien d'ailleurs d'être à moins 30 degrés. Comme ça, ils sont sûrs que les carottes ne s'abîment pas. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des méthodes de datation qu'on utilise. Donc, je vous ai dit, elles sont très diverses. Je vous expliquerai dans la diapositive suivante pourquoi. Donc, il y a deux grands types de datation. Les datations radiométriques ou absolues, qui concernent donc des datations sur les isotopes radioactifs. On peut utiliser également les radiations, les réactions chimiques, le comptage des varves. Les varves, en fait, ce sont des petites laminations, donc des petites couches qu'on va retrouver par exemple dans les sédiments lacustres, et ces varves, ces lamines se déposent chaque année. Donc, quand on a des varves devant nous et qu'on les compte, on compte des années. D'accord ? Et la dendrochronologie, eh bien, c'est le comptage des cernes d'arbres, donc c'est le même principe que les varves. On compte une cerne pour un an, donc quand on retrouve un tronc d'arbre et qu'on compte le nombre de cernes, on sait quel âge il a. Ensuite, on a d'autres méthodes qui sont des méthodes de datation dites relatives qui sont basées sur le principe de la corrélation. On établit un enregistrement qui peut être magnétique, qui peut contenir les isotopes de l'oxygène. Je vous présenterai ça en détail par la suite. On peut utiliser des dépôts de cendres volcaniques qui sont considérés comme instantanés à l'échelle de la Terre, ou la biostratigraphie qui concerne les assemblages de faune qui sont apparus et qui ont disparu au cours des dernières périodes de la Terre. Et donc, on utilise ces enregistrements que l'on va corréler à des enregistrements de référence qui sont bien datés. On va établir des points d'ancrage chronologique. Donc, pourquoi il y a autant de méthodes ? C'est parce que ces méthodes ne sont pas applicables à toutes les périodes de temps. Si on prend ce petit tableau qui récapitule quelques méthodes de datation. On voit par exemple que la dendrochronologie, le comptage des cernes d'arbres, ne peut s'établir que sur les 10 000 dernières années. Les méthodes de datation basées sur les isotopes radioactifs, par exemple comme ici l'uranium, le déséquilibre uranium-thorium, sert à dater des échantillons qui vont de 10 à environ 300-400 000 ans. Si on est plus vieux, on ne peut pas dater. Le carbone 14, qui est très connu, lui, couvre une période qui va de 0 à 50 000 ans. Donc je vais vous parler un petit peu plus précisément du carbone 14. Je m'excuse, ça va peut-être être un peu rébarbatif parce que voilà, il y a des considérations un peu techniques pour dater au carbone 14. Mais je voulais vous le présenter parce que c'est quand même une méthode qui est largement médiatisée et je pense que ça peut être intéressant de la connaître. Donc le carbone 14 ou radiocarbone, c'est un isotope instable du carbone. En effet, sur Terre, on trouve trois atomes de carbone, le carbone 12, le carbone 13, qui sont des isotopes stables et qui sont d'origine terrestre, et le carbone 14, qui lui est d'origine extraterrestre. Donc c'est un isotope instable qui va se désintégrer en émettant un rayonnement bêta pour se transformer en azote. Cette désintégration, elle se rallie selon une fonction exponentielle qu'on appelle temps de demi-vie et qui est de l'ordre de 5000 ans. Donc il faut ce laps de temps au carbone 14 pour diminuer de moitié. Okay. On a un nombre n d'atomes de carbone 14. Au bout de 5000 ans, on aura un nombre n sur 2. Okay. Donc, où trouver le carbone 14 ? On le trouve dans l'atmosphère. Il est issu des bombardements et des rayons cosmiques donc, qui bombardent la Terre. Et en arrivant dans l'atmosphère, il va très vite réagir avec l'oxygène atmosphérique pour former du CO2, du dioxyde de carbone, contenant du carbone 14. À partir de là, il va être incorporé dans la chaîne alimentaire via des processus tels que la photosynthèse ou les réactions de précipitation décarbonate pour entrer dans les organismes. Donc ça veut dire que dans tout organisme vivant, il y a du carbone 14. D'accord ? C'est pour ça que pour dater au carbone 14, on utilise souvent de la matière organique telle que des bois fossilisés, de la tourbe, des pollens ou des carbonates organiques ou inorganiques. Qu'est-ce qui se passe donc ? Voilà, on est en train de vivre, nous contenons du carbone 14, et puis un jour, on meurt. Bon. À la mort de l'organisme, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les échanges avec l'atmosphère sont coupés. C'est-à-dire que le carbone 14 que nous recyclons via nos processus biologiques, qui est sans arrêt à l'équilibre avec l'atmosphère, eh bien, ces échanges se coupent. Donc, le carbone 14 va commencer à se désintégrer lentement à l'intérieur de l'organisme. Et il va se désintégrer lentement selon la courbe exponentielle dont je vous parlais, et en considérant qu'à la mort de l'organisme, on a une activité, je voulais vous mettre, voilà ça. Donc en théorie, à la mort de l'organisme, on a une activité à zéro, d'accord ? Et elle est celle de l'atmosphère au temps de la vie de l'organisme. En théorie, quand l'organisme meurt, cette activité à zéro commence à décroître selon le temps de demi-vie. Donc, ce qu'on va faire, nous, pour dater au carbone 14, c'est qu'on va mesurer la quantité de carbone 14 contenue dans l'échantillon et on va suivre cette courbe exponentielle pour remonter à l'activité, où ici, c'est le N0 ou A0, de façon à obtenir le moment de la mort de l'organisme qui indiquera l'âge de l'endroit où on se trouve. Donc, ce temps de demi-vie, en fait, il est de 5000 ans et on s'est rendu compte avec les mesures qu'au bout de 7 demi-vies, donc environ 35-40 000 ans, le seuil de détection du carbone 14 était atteint et on ne pouvait plus détecter. Donc pour l'instant, la période d'utilisation est de 50 000 ans, mais cette période, elle pourrait être étendue si on arrive à améliorer les machines qui mesurent les quantités de carbone 14 dans les échantillons. Je vous présente un autre exemple, c'est la datation relative. Donc, je vous présente l'exemple du paléomagnétisme parce que j'en reparlerai par la suite. Donc, le paléomagnétisme, c'est l'étude de la variation du champ magnétique terrestre. En effet, le champ magnétique terrestre a varié au cours du temps. On utilise deux méthodes qui couvrent deux échelles différentes. À l'échelle du million d'années, on va corréler les événements magnétiques entre eux et ces événements, ce sont des inversions magnétiques. À l'échelle du millier d'années, on va se baser plutôt sur des excursions du champ magnétique qui sont moins importantes, mais qui pourront nous renseigner aussi sur dans quelle époque on se trouve. Donc, comment ça se passe ? Donc, vous savez que la Terre a un champ magnétique avec des lignes de champ. Ce champ magnétique a une intensité et une direction. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mesurer cette intensité et cette direction. On le mesure sur carottes de sédiments ou de roches avec un magnétomètre cryogénique. Et grâce à ce magnétomètre, on va mesurer deux paramètres principaux. L'aimantation rémanente naturelle, qui va refléter l'intensité du champ magnétique, et l'inclinaison, qui va refléter la direction du champ magnétique. Donc à partir de là, on sait, d'après les travaux de nos prédécesseurs, que le champ magnétique a varié au cours des derniers millions d'années. Tout ça, ça a été mesuré grâce aux dépôts continentaux. Et nos prédécesseurs qui ont travaillé là-dessus ont établi une espèce de code-barre qui nous montre, par exemple, que sur les cinq derniers millions d'années, eh bien, on a eu une alternance de périodes à polarité normale, c'est-à-dire que le pôle nord était situé au nord géographique et le pôle sud au sud géographique. Et puis, des fois, on avait des périodes de polarité inverse, c'est-à-dire que le pôle nord se retrouvait au pôle sud. Au sud géographique. Donc, vous voyez que ça forme un espèce de code-barre. Et ce code-barre, en fait, nous, on l'utilise. Donc, on mesure les paramètres d'inclinaison sur notre échantillon et ensuite, on va comparer ces paramètres avec un enregistrement de référence, un code-barre de référence. Donc, vous pouvez voir ici les variations d'inclinaison. Si on prend un exemple dans l'hémisphère nord, on se trouve à une latitude de 34 degrés nord. En période de polarité normale, on aura une inclinaison de 50 degrés. Et en période de polarité inverse, on observera une inclinaison de moins 50 degrés. Donc, en fonction de cet enregistrement, on pourra reconstituer le code-barre et le comparer à un enregistrement de référence. Maintenant, je vais parler des outils de reconstruction. Donc, ils sont très divers, sont très variés. En fait, quand on dit qu'on est paléoclimatologue, on n'est pas paléoclimatologue. On est géochimiste, sédimentologue, géophysicien et on adapte nos compétences à la question des changements du climat passé. Donc, il y a différents spécialistes. Il y a les spécialistes qui utilisent des indicateurs biologiques. Alors, ce sont les gens qui étudient les pollens, qui étudient les diatomées, qui sont des algues unicellulaires siliceuses. Il y a des gens aussi qui utilisent les ostracodes, qui sont des petits crustacés millimétriques qui ont une coquille carbonatée. Donc, si on prend l'exemple des pollens ici, vous avez une très belle photo de pollen avec différentes sortes de pollens. Ben en fait, les palynologues, ils vont prélever des échantillons, par exemple dans une carotte. Ils vont isoler les pollens et, à partir de la morphologie de ces pollens, reconstituer les différents végétaux qui sont contenus dans l'échantillon. Comme ça, ils vont pouvoir proposer des assemblages de végétation qui correspondront à une forêt ouverte, à une clairière, à un alpage. Et à partir de là, et en faisant un traitement statistique et une modélisation, ils peuvent présenter des modèles de végétation. Et ces modèles de végétation permettront de reconstituer des paramètres de température, de pluviométrie ou, comme dans le cas des diatomées, de salinité des eaux. En effet, une forêt ouverte et un alpage n'ont pas les mêmes besoins en température et en eau pour se développer. Non ? Si vous êtes d'accord ? Il y a des indicateurs sédimentologiques, donc ça c'est ma partie puisque je suis sédimentologue. Donc les indicateurs sédimentologiques, je vais passer quand même assez rapidement dessus parce que sinon, bon. Les indicateurs sédimentologiques, ils sont variés aussi. Quand on est sédimentologue, pour reconstituer les environnements et les climats, on peut se servir de différents indicateurs. On peut servir des teneurs en carbonate qui peuvent indiquer des productivités lacustres ou marines, des teneurs en matière organique qui indiquent la productivité primaire, et l'absence ou la présence de faune biologique. On utilise le magnétisme des sédiments, qui renseigne sur des indications d'érosion et de pluviométrie. On utilise également la granulométrie, où on peut aussi identifier des phases minérales majeures, comme par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du gypse. D'accord ? Les précipitations de gypse se font dans des cas, mettons-nous en situation, nous sommes au bord d'un lac qui est en eau, donc tout va bien, il précipite du carbonate, et puis petit à petit, le climat ça sèche. Et qu'est-ce qui va se passer? Les eaux vont se concentrer en ions. Et il y a un moment où, quand le lac sera proche de l'assèchement, on va précipiter du gypse, qui sont des roches évaporitiques. Donc, en identifiant ces zones de gypse dans une carotte, par exemple, on peut dire que le climat s'est asséché à un certain moment. Enfin, les indicateurs géochimiques, qui sont les indicateurs les plus récents, puisque la géochimie ne s'est développée que très tard, avec le fameux isotope stable de l'oxygène. Oh, pardon. Donc ici, oxygène 18, dont vous avez très certainement déjà entendu parler, puisque c'est la base un petit peu de toutes les figures qu'on vous présente pour vous expliquer le changement climatique. Donc cet isotope stable de l'oxygène peut renseigner sur la pluviométrie et les variations de température. On utilise également les éléments majeurs. Donc ça, c'est mon travail à Chambéry, c'est de mesurer les éléments majeurs contenus dans les roches et les sédiments qui peuvent renseigner sur des processus environnementaux, comme pour la sédimentologie en utilisant la teneur en carbonate. Et puis, plus récemment, on a réussi à utiliser les isotopes radiogéniques lourds, tels que le néodyme, le strontium ou le plomb, qui sont des isotopes beaucoup plus rares, mais qui permettent de renseigner, par exemple, sur des changements de circulation atmosphérique lors de grands changements climatiques. On voit les masses d'air qui se déplacent, qui ne sont plus les mêmes, et ça, on arrive à les tracer avec des isotopes tels que le néodyme. Donc, je fais un petit point sur les isotopes stables de l'oxygène. Donc, ces isotopes, les isotopes, comme je vous ai présenté pour le carbone 14, ce sont des atomes qui ont le même élément chimique, donc ici l'oxygène, mais qui ne diffèrent que par le nombre de neutrons dans leur noyau. Ils n'ont pas la même masse atomique. L'oxygène 16, donc il existe trois isotopes, l'oxygène 16, l'oxygène 17 et l'oxygène 18. L'oxygène 16, donc a deux neutrons de moins que l'oxygène 18 dans son noyau, il représente 98% de l'oxygène sur Terre. Et c'est un aimant qui est plus léger, puisqu'il a deux neutrons en moins. L'oxygène 18, quant à lui, ne représente que 0,2% et est ce qu'on appelle un isotope lourd. Donc, pourquoi mesure-t-on le rapport oxygène 18 sur oxygène 16? C'est parce que ce rapport varie en fonction des processus hydrologiques, évaporation, condensation, précipitation. Et ça peut nous renseigner sur des phénomènes climatiques. Le rapport oxygène 18 sur oxygène 16 actuel, il est de l'ordre de 2 × 10⁻³. Par contre, on a constaté que dans les glaces des calottes polaires, ce rapport, il est systématiquement plus faible. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe entre le rapport oxygène 18 sur oxygène 16 dans l'eau et la même eau qu'on va retrouver sous forme de glace au pôle. C'est ce qu'on appelle un processus de fractionnement. Donc ce processus de fractionnement, on le note delta O18. Ce delta O18, c'est le ratio O18 sur O16 de l'échantillon qu'on va normaliser par un ratio O18 sur O16 qui sera global à l'échelle de la Terre. Et comme vous voyez qu'on est sur des valeurs très petites, on multiplie par 1000. Comme ça, on a des chiffres à peu près ronds. Et donc, ce fractionnement, il est lié à quoi? Il est lié aux différences de propriétés physiques entre les deux atomes d'oxygène. Un oxygène 18 lourd et un oxygène 16 plus léger. Si on reprend le cycle hydrologique de l'eau, donc on se trouve dans l'océan. Dans l'océan, au niveau de l'équateur, on a des phénomènes d'évaporation. Ces phénomènes d'évaporation, ils vont concentrer l'oxygène 16 dans la vapeur, puisque l'oxygène 16 est plus léger. Donc il sera plus facile à prendre dans l'eau. Ensuite, il y a transport par les masses d'air. Et ces masses d'air, arrivées sur les continents, elles se déstabilisent et créent des précipitations. Et dans ces précipitations, on va concentrer l'oxygène 18. Pourquoi? Parce qu'il est plus lourd, donc il part le premier. Et enfin, quand on arrive au niveau des pôles, on va concentrer l'oxygène 16 léger qui est resté dans les masses d'air. Donc ça a permis d'avoir une réflexion sur l'enrichissement ou l'appauvrissement en oxygène 18 dans les océans pendant les derniers milliers d'années qui ont été marquées par des variations de la température, notamment des périodes glaciaires interglaciaires, comme je vous expliquais, les dernières glaciations. Donc pendant les périodes froides, comme on va limiter l'évaporation, on ne va prendre vraiment que de l'oxygène 16. Donc on va enrichir l'eau de mer en delta O18. Par contre, pendant les périodes chaudes, on va prélever à la fois de l'oxygène 18 et de l'oxygène 16 par des phénomènes d'évaporation importants. Et dans ce cas-là, on va appauvrir l'eau de mer en delta O18. Et c'est ce qu'on observe quand on a enregistré pour la première fois le delta O18 dans les carottes de glace. Donc ici, c'est un petit schéma qui vous explique comment a varié le delta O18 depuis environ 5 cycles glaciaires interglaciaires. Donc le stade, ici, on se trouve à environ 250 000 ans. On est dans une période chaude, suivie d'une période glaciaire qui s'appelle le stade 6. Encore une période chaude, la dernière période glaciaire qui se termine environ 20 000 ans. Et là, nous sommes dans l'Holocène, il y a 10 000 ans. Et ce qu'on voit, donc attention, l'échelle est inversée. Ça, c'est un petit truc de paléoclimatologue. On inverse les échelles à volonté, comme ça nous arrange. Bon, les résultats sont robustes quand même. Mais ce qu'on voit, c'est que pendant les périodes glaciaires, on a un delta O18 qui est proche de 2. Donc un enrichissement du delta E18 dans les océans. Et pendant les phases plus chaudes interglaciaires, on a un appauvrissement en delta O18 dans les océans. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu ce qui s'est passé au cours des derniers millions d'années en me concentrant sur différentes périodes de temps. Donc la Terre, elle a connu dans son histoire de nombreux changements climatiques. Au cours de ces différents changements climatiques, la faune et la flore, elles se sont adaptées à ces conditions, mais on a quand même vu des extinctions massives, notamment on pense à la crise Crétacé-Tertiaire, à la crise Permo-Triassique. Et les facteurs de changement climatique, ici, eh ben, ils ont pu être identifiés. Vous verrez qu'ils peuvent être soit indépendants de la machine climatique Terre, soit extérieurs à la Terre. Donc si on s'intéresse aux deux derniers milliards d'années, eh bien, on voit que la Terre a subi de grandes variations au niveau de sa température globale, donc avec ici une moyenne à 17 degrés. Vous voyez qu'au cours, par exemple, du précambrien, on était dans une période très froide qui s'est reproduite à la fin de l'ordovicien et du silurien et enfin entre le carbonifère et le permien. Sur les autres périodes, telles que le cambrien et le début de l'ordovicien, on est dans une période chaude, ainsi que pour les périodes du Trias et du Jurassique, et le Crétacé et le début du Tertiaire. Donc si on s'intéresse à ces périodes froides, on peut prendre un exemple, c'est l'exemple de la glaciation finie ordovicienne. Donc les géologues, paléoclimatologues, ont travaillé sur ces glaciations à l'échelle du million d'années, et ils ont mis en évidence différents facteurs qui pouvaient expliquer des glaciations pendant ces périodes. Donc l'exemple de la glaciation finie ordovicienne représente bien l'ensemble des glaciations que je vous ai présentées juste avant. Donc ce que les géologues ont vu, c'est qu'en général, pendant ces périodes glaciaires, on a la présence d'un continent géant situé au pôle. Donc ici, au cours de l'ordovicien, il était localisé au pôle sud. Comment est-ce qu'ils ont mis ça en évidence? Eh bien, grâce au paléomagnétisme et à l'orientation du champ magnétique. Ils ont mesuré les inclinaisons sur les continents actuels et se sont rendus compte que les inclinaisons mesurées sur ces continents actuels à l'ordovicien étaient tous dirigées vers le pôle sud. Ensuite, les géologues ont mis en évidence qu'il y avait la création d'une chaîne de montagnes à cette époque. Cette chaîne de montagnes, c'était la chaîne calédonienne. Donc, à partir de ces deux preuves, de ces deux arguments, ils ont pu donner comme hypothèse que un grand continent au pôle avait favorisé la formation de glace et le stockage de glace au niveau des pôles. Et en plus, on avait création de grandes chaînes de montagnes qui favorisaient la formation de glaciers de montagne. Donc tout était réuni pour pouvoir stocker la glace et, en cas de refroidissement climatique. Ils ont également observé la présence de stries glaciaires qui se trouvaient sur de larges zones continentales qui se trouvent au pôle. Et ces stries glaciaires, comme je vous l'ai montré avec Louis Agassiz, sont caractéristiques de passage de grands glaciers. Et enfin, en mesurant les teneurs en matière organique et en isotopes stables des océans de l'époque, ils se sont rendus compte qu'en fait, on avait une phase de refroidissement global pendant l'ordovicien supérieur. Donc ça, c'est vraiment les preuves qu'on retrouve systématiquement lorsqu'on parle de glaciation à l'échelle du million d'années. Maintenant, on peut aussi s'intéresser aux périodes plus chaudes. Ces périodes plus chaudes, c'est le Jurassique. Le Jurassique, en Bourgogne, il est très très bien représenté. D'accord ? Si on a de très bons vins, c'est notamment grâce au Jurassique. Donc ici, je vous présente un petit tableau récapitulatif donc, du Jurassique inférieur avec les différents étages qui sont basés sur de la biostratigraphie, ce que je vous expliquais, les assemblages de faunes qui sont apparus, qui ont disparu. On a également du paléomagnétisme, le petit code barre que je vous ai présenté. Et donc, ça a permis d'établir la chronologie des séquences du Jurassique bourguignon. Donc ici, c'est une reconstitution, faite par les paléoclimatologues aussi, de la disposition des continents au Jurassique. Eh bien, l'Europe, nous, on se trouvait ici, dans cette petite zone que vous voyez, une zone de mer peu profonde. Quels sont les arguments pour dire ça? Eh bien, quand vous vous baladez dans les vignes autour de Châlons, vers Saint-Romain ou autre chose, vous allez marcher sur du Sénémurien, du Bajossien, du Pliensbachien, qui sont des formations du Jurassique, et vous allez trouver énormément de restes de fossiles marins. Les plus beaux sont les ammonites, mais par exemple sur le Sénémurien, vous pourrez trouver des griffés arqués. Vous pourrez également trouver du côté du bout du monde des récifs coralliens avec des dents de requins à l'intérieur. Donc tout ça indique qu'on était très certainement en environnement marin. On n'était pas trop sur Terre. En plus, si vous observez autour des vignes, vous avez de très grands bancs calcaires. Ces bancs calcaires, en fait, ils se forment dans des conditions précises. Et si on suit le principe de l'actualisme, l'équivalent présent de ces bancs calcaires, c'est la plateforme des Bahamas, qui est en cours de formation, qui crée des carbonates et qui se développe et qui est en train de faire de grands bancs calcaires. D'accord ? Donc, si on se dit, à l'époque, ça se passait comme aux Bahamas, eh bien, les paléoclimatologues sont aussi deux grands artistes et je peux vous présenter une idée du paysage qu'on pouvait avoir au Jurassique, à Chalon-sur-Saône. Donc, avec ici la Terre, donc là, on serait en Allemagne, hein, et puis on regarderait, la Bourgogne serait là. Hein. Donc, oui, on serait, voilà, parce qu'on était quand même sous l'eau. Hein. Donc ça, voilà, ce serait plutôt les Vosges qui dépassaient légèrement. D'accord ? Donc, voilà. Maintenant, moi, la période qui m'intéresse particulièrement dans mon travail, c'est le Quaternaire. Alors, le Quaternaire, eh ben, ça représente 1,65 million d'années avant aujourd'hui. Pourquoi ça m'intéresse particulièrement et ça intéresse beaucoup de paléoclimatologues ? C'est parce que c'est le développement du genre Homo. L'homme apparaît pendant cette période, d'abord sous forme... Enfin, les Australopithèques sont un petit peu avant, mais le genre Homo tel qu'on le connaît, l'homme moderne, apparaît au Quaternaire. Et cette période-là, eh bien, elle est caractérisée par une variabilité climatique particulière qu'on appelle la variabilité glaciaire-interglaciaire, c'est-à-dire une alternance de périodes chaudes, les interglaciaires, avec des périodes froides, les glaciaires. Ces changements, en fait, glaciaires-interglaciaires, en fait, ils sont liés à un processus qu'on connaît bien maintenant, qui est le développement, les avancées, les retraits de grandes calottes polaires situées en Amérique du Nord, c'est la calotte Laurentide, et au-dessus de l'Europe, enfin, en Scandinavie et sur les îles britanniques, ça, c'est la calotte fennoscandienne. Donc, les forçages de cette variabilité, on les connaît bien. Il y a deux types de forçage. D'abord, le forçage terrestre. Ce forçage terrestre, il est lié au mouvement des masses continentales, ce qu'on appelle la tectonique des plaques. Ce qui nous a fait rentrer principalement dans l'ère du Quaternaire d'un point de vue climatique, c'est un mouvement tectonique qui est la fermeture de l'isthme du Panama. En effet, il y a 5 millions d'années, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord ne se touchaient pas. Donc, on avait une circulation océanique entre ces deux masses continentales. Il y a entre 4,5 et 3,5 millions d'années, l'isthme se ferme et on modifie la circulation océanique de l'Atlantique Nord et on crée le Gulf Stream. Et cette modification de la circulation océanique a engendré une modification du climat à long terme. Parce que maintenant, on le sait, la circulation océanique globale, ce qu'on appelle la circulation thermohaline, c'est le moteur thermique du climat sur Terre. Si on modifie la circulation océanique, on modifie le climat. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir de la fermeture de l'isthme de Panama, eh bien, on voit qu'on rentre dans une phase de refroidissement avec une intensification des glaciations dans l'hémisphère nord. Donc maintenant, on peut regarder un petit peu la variabilité au sein de cette partie. Quelle est la variabilité glaciaire-interglaciaire ? Et cette variabilité, elle est liée à des paramètres qui sont externes à la Terre, qui sont des paramètres orbitaux. Donc ces paramètres, ils ont été mis en évidence par un géophysicien qui s'appelle Milutin Milankovic, qui a mis en évidence la théorie astronomique du climat. Cette théorie astronomique du climat, en fait, elle explique que la Terre va recevoir une énergie du Soleil qui va varier selon trois processus principaux. Ces processus, ils sont liés à la position de la Terre par rapport au Soleil. Le premier processus, c'est ce qu'on appelle la variation d'excentricité. Elle est liée, en fait, à l'orbite de la Terre autour du Soleil. Cette orbite, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle n'est pas ronde. Elle est elliptique. Et le Soleil occupe un des foyers de l'ellipse. Donc vous comprendrez facilement que quand la Terre est à l'autre bout de l'ellipse par rapport au foyer Soleil, elle reçoit moins d'énergie solaire que quand elle se trouve proche du Soleil. Donc ça, c'est le premier cycle qu'on appelle le cycle d'excentricité, qui a une périodicité de 100 000 ans et de 400 000 ans. Il a mis en évidence aussi un paramètre qui s'appelle l'obliquité et qui, lui, est lié à l'angle que fait l'axe de la Terre avec la verticale. Donc ça, je pense que vous le savez aussi, l'axe de la Terre n'est pas la verticale. Il est légèrement oblique. Et cet axe, eh bien, il varie. D'ailleurs, pour exemple, le tremblement de terre de de Sumatra, ça en 2006, c'était Sumatra, a fait bouger l'axe de la Terre. Il l'a fait un petit peu vibrer, d'accord ? Mais cet axe, il varie naturellement et il varie selon une périodicité de 40 000 ans. Donc selon son obliquité, l'obliquité de l'axe, eh bien, on va faire varier également la quantité d'énergie solaire reçue par la Terre. Enfin, le dernier paramètre, c'est la précession. Et la précession, en fait, elle est liée au mouvement que fait l'axe sur lui-même à la manière d'une toupie. Donc, si la Terre est plus ou moins éloignée du Soleil, avec un axe plus ou moins oblique, et qu'il a tourné à un certain angle sur son axe de rotation, eh bien, on va aussi faire varier la quantité d'énergie solaire reçue par la Terre. Eh bien, si on prend ces trois paramètres et qu'on les combine, et qu'on regarde en un point donné, eh bien, la combinaison de ces trois paramètres donne la variation d'énergie solaire qui va être reçue par la Terre en ce point donné. Donc ici, par exemple, vous avez le forçage solaire à 65 degrés nord en été. Eh bien, si on compare cette variation qu'on appelle l'insolation avec ici un enregistrement isotopique en delta O18 qui montre donc la variabilité glaciaire, interglaciaire au cours du quaternaire, eh bien, on se rend compte en regardant dans le détail que cette insolation contrôle les pics chauds et les pics froids du climat au cours du quaternaire. C'est un signal climatique qui est global, puisque si je vous représente ici donc les paramètres d'excentricité, d'obliquité et de précession, si on les compare aux enregistrements marins, ça marche bien, avec un maximum, par exemple, d'excentricité pendant les interglaciaires et un minimum d'excentricité pendant les phases glaciaires, eh bien, ça marche aussi avec les enregistrements continentaux, qui sont beaucoup plus difficiles à mettre en évidence. Mais si on prend, par exemple, des enregistrements palynologiques, c'est-à-dire des assemblages de végétation, on voit qu'on a une augmentation, ici, des pollens d'arbres, donc qui nécessitent plus de chaleur, enfin, des pollens de végétaux qui nécessitent plus de chaleur et plus d'eau pendant les interglaciaires. Et puis, à l'inverse, ici, vous avez la dominance d'une végétation stépique d'herbacées qui nécessite moins d'eau et moins de chaleur. Donc ça, c'est un exemple qui a été pris en Grèce, dans un lac en Grèce. Et puis, dans l'hémisphère sud, ça existe aussi, puisque vous avez approximativement le même signal mesuré dans un lac de cratère en Australie. Donc la variabilité climatique holocène. Donc plus ça va, plus on se rapproche de nous, hein. Maintenant, là, l'homme est bien installé. C'est une période qui est relativement stable à l'échelle du quaternaire. Si on regarde cet enregistrement qui couvre les derniers 60 000 ans, avec ici la dernière période glaciaire, on a une forte variabilité. Et puis, à 10 000 ans, on rentre dans la période holocène et cette variabilité semble beaucoup moins marquée. Mais c'est une période stable, je dis bien relativement, parce que si on regarde en détail la variabilité climatique holocène, eh bien, on se rend compte qu'il y a quand même des variations. Et les paléoclimatologues, qui, pour cette période, travaillent beaucoup avec les archéologues, ont mis en évidence que les augmentations ici, donc de température moyenne, coïncidaient avec le développement de grandes civilisations. Donc vous avez par exemple ce pic de température qui correspond, d'après les preuves archéologiques, au développement des civilisations minoennes. Vous avez ici l'optimum climatique romain, comme son nom l'indique, il coïncide avec le développement de la grande civilisation romaine. Vous avez l'optimum climatique médiéval, dont je parlerai par la suite, et puis le développement industriel de l'homme très très moderne, on va dire. Et puis, à l'inverse, vous avez des périodes de refroidissement, notamment un exemple que je vous citerai par la suite, qui est le petit âge glaciaire. Donc les facteurs de forçage pour l'Holocène, ils sont nombreux et sont encore sujets à discussion, parce que c'est ça le problème, c'est que plus on connaît bien une période, plus on a des moyens de la mesurer, plus les complications arrivent. Parce qu'on peut aller de plus en plus loin, et plus on va loin, c'est le métier du scientifique, plus on va loin, plus de nouveaux problèmes se posent. On a quand même réussi à identifier les facteurs de forçage principaux. Donc on a les facteurs de forçage externes à la Terre, qui sont l'insolation, donc ce que je vous ai présenté avant, avec les paramètres d'excentricité, d'obliquité et de précession. On a l'activité solaire, et puis on va voir un processus qu'on définit comme externe, mais que moi je trouve interne, c'est le volcanisme. Donc si c'est un exemple, par exemple, de l'évolution des températures en fonction de l'activité des taches solaires du Soleil. Donc le nombre de taches solaires est proportionnel à l'activité du Soleil. Plus le Soleil est actif, plus les taches solaires sont importantes. Et on voit, par exemple, entre 1600 et 1750, que l'activité du soleil est à son minimum. Et on reviendra sur cette période par la suite, et vous me direz pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé par rapport à l'activité du soleil. Il y a les forçages internes aussi qui sont liés à la machine climatique elle-même, et un de ces forçages, c'est les oscillations des courants atlantiques. Je vous ai dit, les circulations atlantiques globales sont les moteurs thermiques de la Terre. Donc la moindre modification de la circulation océanique va modifier le climat global. Si on prend l'exemple de l'oscillation nord-atlantique, eh bien on a mis en évidence qu'à l'échelle décennale ou à l'échelle millénaire, cette oscillation pouvait être en phase positive ou en phase négative. Et selon sa phase, on va avoir des climats totalement différents en Europe et en Méditerranée. Là, nous sommes dans l'oscillation atlantique, nord-atlantique positive. Donc vous avez la dépression située à l'avoisinage de l'Islande et l'anticyclone des Açores. Et vous voyez que ces deux cellules conduisent les westerlies, qui sont chargés en humidité, qui sont les masses d'air à l'origine des pluies, par exemple en France. Eh bien, ça va conduire ça jusqu'en Europe du Nord. Donc on va observer pendant ces phases positives une Europe du Nord relativement humide et une sécheresse en Méditerranée. Par contre, pendant les phases d'oscillation nord-atlantique négative, la dépression islandaise et l'anticyclone des Açores sont déviés vers le sud. Les westerlies sont elles-mêmes déviées vers le sud. Et dans ces cas-là, eh bien, c'est la Méditerranée qui va bénéficier de ces masses d'air. Et l'Europe du Nord connaîtra un climat beaucoup plus sec. Donc maintenant, quelques exemples de paléoclimatologie dédiés aux relations homme-climat. Donc, un premier exemple avec la chute de l'Empire Akkadien. Donc, l'Empire Akkadien, c'est une civilisation qui s'est développée en Mésopotamie autour de 4300 ans BP. J'ai oublié de vous préciser ce que c'était que BP. Donc, hein. BP, c'est Before Present. Before Present, en fait, le présent pour les paléoclimatologues, c'est 1950. Ça a été mis en évidence, ça a été mis en évidence et ça a été imposé par les paléoclimatologues. Parce qu'après 1950, ça a été posé en 1950 parce qu'en fait, c'était basé sur la datation radiocarbone. Et il se trouve qu'on avait dit, en 1950, c'est l'année zéro. Pourquoi ? Parce qu'après 1950, il y a eu les essais nucléaires qui ont totalement modifié le cycle du carbone dans l'atmosphère et donc ont totalement modifié la variabilité du radiocarbone. Donc, quand je vous parle de 4300 ans before present, ça veut dire avant 1950. Donc il y a 4000 ans, les Akkadiens se développent en Mésopotamie. Et puis les archéologues qui travaillent sur cet empire akkadien se rendent compte qu'autour de 4100, les Akkadiens ont déserté les plaines du nord et ont migré vers le sud. Et ils observent de nouveau les traces de cette civilisation autour de 3900 ans. Donc, ils se sont posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils avaient quitté cette zone-là, alors qu'apparemment, ils se sentaient bien, une civilisation s'était créée. Et bien, en fait, ils ont travaillé avec les paléoclimatologues, et les paléoclimatologues ont mesuré différents paramètres sédimentologiques et géochimiques, et ont mis en évidence qu'autour de 4000 ans, on a une augmentation de certains minéraux et de certains apports qui indiquent des tempêtes de poussière régulières et très fortes, qui indiquent une période aride à ce moment-là, juste à côté de l'endroit où vivaient, enfin, dans les zones où vivaient les Akkadiens. Et donc, on a mis ça en relation avec le changement climatique, donc une période très aride qui aurait chassé les Akkadiens de Mésopotamie du Nord pour partir vers le sud. Et une fois que cette période aride se serait calmée, donc environ 300 ans plus tard, les Akkadiens seraient remontés pour se réinstaller. Chute de la civilisation Maya, donc là c'est 1000 ans BP. Donc là en fait ça a été mis en évidence, donc vous savez que les Mayas se sont éteints dans des circonstances mystérieuses. Les climatologues ont leur idée, les paléoclimatologues, et en fait pour mettre leur idée en évidence, ils ont mesuré le delta O18 dans le lac Shishankanab, qui montre qu'autour entre 1200 et 1000 ans BP, l'Amérique centrale a subi une période sèche, et la période la plus sèche des 8000 dernières années. Et ça, ils l'ont mis en évidence donc, par rapport à cette mesure en delta O18, qui couvre les 2000 dernières années, et qui montre une augmentation très rapide du delta O18, qui indique qu'en fait, les eaux se sont fortement évaporées, se sont enrichies en delta O18 et que le lac était proche de l'émersion. Ça, ça a été aussi corroboré par des gens qui ont travaillé au Pérou et qui ont montré que pendant cette période, on a une forte augmentation des tempêtes de poussière qui montrent qu'on a un climat relativement aride. Alors maintenant, si on s'intéresse au dernier millénaire. Le dernier millénaire, donc ici, je vous présente une nouvelle méthode de notation chronologique. On n'est plus dans le before present, on est dans le Anno Domini et before Christus. Alors voilà, on est un petit peu compliqué, mais ça, c'est parce qu'on travaille avec les archéologues. Anno Domini, ça veut dire après Jésus-Christ. Et before Christus, ça veut dire avant Jésus-Christ. Donc, pour travailler avec les archéologues qui, eux, travaillent sur des périodes uniquement humaines, on a changé notre notation chronologique. Donc maintenant, on est ici en 2000, on est aujourd'hui, et à zéro, on est au moment de la naissance du Christ. D'accord ? Donc ce qu'on voit sur les 2000 dernières années, eh bien, c'est qu'on a eu des périodes de réchauffement au niveau donc, des températures de l'hémisphère nord, des périodes de réchauffement, dont une particulière qu'on a appelée l'optimum climatique médiéval, et une période de fort refroidissement qui se situe entre 1600 et 1850 ans, et qui serait due à quel type de forçage ? Personne ne suit ? Au minimum d'intensité des radiations solaires à ce moment-là. D'accord ? Et très certainement aussi à un ralentissement de la circulation océanique qui aurait fait que le Gulf Stream était beaucoup moins intense et aurait entraîné une diminution de la température en France et sur les îles britanniques. Donc le petit âge glaciaire, qui est une période relativement froide et dont je parlerai après. Donc l'exemple de l'optimum climatique médiéval, eh ben, pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'au Moyen-Âge, on observe des étés plus chauds, des hivers moins froids et moins humides, et qu'à cette même période, du côté des hommes, eh bien, c'est l'essor démographique, c'est l'essor agraire, on améliore les techniques de culture, on améliore l'élevage, ce qui montre bien qu'ici, le climat a quand même un petit peu aidé l'homme à se développer. Par contre, le petit âge glaciaire. Donc le petit âge glaciaire, c'est une période qui va être caractérisée par des hivers extrêmement froids et des étés instables, alternants, étés très secs, sécheresse prononcée, puis des étés très pluvieux qui vont faire moisir les cultures. Ce petit âge glaciaire, il a été mis en évidence par l'avancée généralisée des fronts de glaciers. Donc si je vous présente deux images qui ont été prises quasiment du même endroit, vues de la Tine, donc c'est la mer de glace. Donc la mer de glace en 1650, vous voyez, qui est bien remplie, ok, jusqu'au bord. Et puis la mer de glace en 2000, où on ne voit plus ici que les moraines, qui sont les dépôts qui ont été déposés lors du retrait glaciaire. Donc on voit que clairement, les conditions étaient plus favorables au développement de la mer de glace en 1650 plutôt qu'en 2000. Alors, un petit exemple, je ne dis pas que c'est la vérité, mais ça peut avoir aidé, c'est l'influence du petit âge glaciaire sur une petite période de mécontentement des Français, qui est la Révolution française. Donc ce qu'on sait, c'est qu'on se trouve depuis 1690 dans la dégradation climatique du petit âge glaciaire. Cette dégradation, elle entraîne de mauvaises récoltes, des famines, des maladies. L'hiver 1709, c'est le paroxysme, puisque les températures atteignent moins 30 degrés à Paris et moins 15 degrés à Bordeaux. Donc tout ça est tiré d'archives climatiques de gens qui ont vécu à l'époque. Hein. Ce sont des archives climatiques. Les rivières gèlent, comme on peut le voir sur cette figure, où on voit les gens qui glissent sur la Seine. Et les gelées, en 1709, se sont poursuivies jusqu'en juin. Donc les seins de glace étaient largement dépassés. Donc voilà, pendant cette période, voilà le genre d'année auquel on peut avoir affaire. Donc quand on a une majorité d'agriculteurs en France, je pense que ça peut poser problème. En plus de ça, si ça ne suffisait pas, en 1783, il y a l'éruption du Laki en Islande qui a dégagé un nuage de soufre qui s'est écoulé sur toute l'Europe, les îles britanniques et l'Europe du Nord, et qui a endommagé gravement les cultures. On retrouve, par exemple, si vous vous intéressez à l'historique de la vigne bourguignonne, autour de 1783, il existe des archives qui font mention d'un nuage nauséabond qui détruit les vignes. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? L'été 1788, comme je vous disais, on a des étés instables, et là, on a un été extrêmement sec, qui détruit toutes les cultures, donc pas de réserve pour l'hiver. Et l'hiver 1788-1789, il est particulièrement long et rigoureux, et il est dans les mêmes gammes de température que l'hiver 1709. Vous ajoutez à ça, pendant des années et des années, une mauvaise gestion des caisses royales, qui ne permet pas de pallier aux famines, puisqu'on ne peut pas acheter de nourriture à l'Espagne, par exemple, qui est un petit peu épargnée par ces températures polaires. Eh bien, il y a un moment, les gens sont mécontents. Et puis, bah, ils se font entendre. Donc voilà, c'est une des hypothèses avancées par les paléoclimatologues pour dire que la politique, les conditions économiques étaient une chose, mais le climat n'a certainement pas vraiment aidé à rendre les gens heureux en France pendant le petit âge glaciaire. Pardon ? Non, bah non, vous consolez pas, ça arrive là. Donc maintenant, le changement climatique actuel. Donc ce qu'on observe depuis les deux derniers siècles, c'est une évolution hors norme des températures, ce qu'on appelle la courbe de température crosse de Hockey. Ici, c'est la moyenne pour le dernier millénaire, et vous voyez que à partir de 1990, on a largement dépassé la température moyenne observée pour le dernier millénaire. Alors, quels sont les facteurs de forçage de ce changement climatique actuel ? Eh bien, d'abord, il faut vous rassurer, le changement climatique actuel, il est naturel. C'est normal qu'on soit dans une période plus chaude. Si on regarde l'enregistrement de la variabilité glaciaire, interglaciaire que je vous ai présenté précédemment, vous avez une alternance de périodes interglaciaire suivie d'un glaciaire, interglaciaire suivie d'un glaciaire, interglaciaire. Et on est dans la gamme de variations temporelles. Après cette période glaciaire, il était naturel qu'on retourne dans une période plus chaude depuis 10 000 ans. Maintenant, ce qui est un petit peu embêtant, c'est quand on regarde d'autres paramètres que la température, et par exemple, des paramètres tels que les gaz à effet de serre, méthane, dioxyde de carbone. Et là, je ne sais pas si vous voyez, donc vous avez tous les paramètres, les poussières, le deutérium, delta O18, et là, vous avez le méthane et le dioxyde de carbone qui augmentent de façon exponentielle. Cette augmentation, les paléoclimatologues n'ont pas pu donner d'explication naturelle à cette augmentation. Donc, ils ont invoqué un nouveau paramètre de contrôle qui est l'impact des activités humaines, ce qu'ils appellent l'impact anthropique. Il y a même certains auteurs qui ont proposé d'entrer dans une nouvelle ère. On ne serait plus dans l'Holocène, on serait dans l'Anthropocène, puisque maintenant, le climat serait régulé par l'homme et ses émissions. C'est un petit peu... ça va loin quand même, hein. Donc, un exemple du réchauffement climatique que je voulais vous montrer, c'est au niveau des glaciers européens, des glaciers alpins européens, où vous voyez qu'à partir de 1800, donc pour les deux derniers siècles, on a un recul systématique de tous les glaciers, qu'ils se trouvent en Hollande, en Islande, en France, en Suisse ou en Allemagne. Donc, c'est quelque chose de généralisé. La fonte des glaces est généralisée. Donc maintenant, oui, voilà, donc c'était pour vous parler du changement climatique actuel. Donc maintenant, je vais vous parler du futur. Le futur, eh bien, il est traité par les travaux du GIEC, qui représente le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. C'est un groupe qui a été créé en 1988 par l'ONU. Ce n'est pas une assemblée de personnes, c'est une assemblée de pays. C'est-à-dire que le Luxembourg, qui est autour de 450 000 habitants, a une voix autant que les États-Unis. Il n'y a pas deux nations plus importantes que l'autre au GIEC. Donc, quels sont les objectifs du GIEC ? Les objectifs, c'est d'évaluer sans parti pris et de manière méthodique l'état des connaissances relatives au changement climatique en fonction des facteurs à la fois naturels, que je vous ai présentés avant, mais également de facteurs politiques et socio-économiques. Donc, comment le GIEC fonctionne ? Le GIEC, donc, est une assemblée de scientifiques qui se réunissent sous le nom d'un pays. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils font d'abord une évaluation, c'est-à-dire qu'ils font une synthèse des publications scientifiques qui traitent des relations homme-climat. Donc ces publications scientifiques peuvent être donc soit typiquement recherche fondamentale, mais elles peuvent traiter des techniques ou même de problèmes socio-économiques. Attention, ici, on est sans parti pris. C'est-à-dire qu'on prend en compte aussi bien une publication qui parle de l'énorme influence de l'homme sur le changement climatique, qu'une autre publication qui dit que l'homme n'a rien à voir avec le changement climatique. C'est vraiment, voilà, on prend tout à partir du moment où la publication est de qualité et qu'elle a été reviewée par d'autres scientifiques indépendants. Ensuite, on met en place une expertise, donc ça, en fournissant des rapports, donc ça, ces rapports, on en parle pas mal, hein, à la télé, les rapports qu'on appelle les ICCP, donc il y en a eu... en 1990 ou 91, un autre en 2001, un en 2007 et il y en a un qui est prévu en 2013-2014. Donc ces rapports synthétiques, eh bien, ils font état de la science homme-climat à l'instant T et selon trois axes de développement en lien avec le changement climatique. Donc les principes physiques du changement climatique, la vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique, donc tout ce qui est écosystème, biosphère. Et enfin, quels sont les moyens d'atténuer les effets de ce changement climatique. Et enfin, pour présenter un petit peu les choses d'un point de vue cartographie et données, on mathématise les données existantes et on fait des simulations, qu'elles se soient pour le changement climatique actuel, afin d'essayer de quantifier l'impact de l'homme sur le climat, ou pour faire des prédictions des climats du futur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une simulation ? En fait, c'est une boîte mathématique. Une boîte mathématique, donc, qui prend en compte différents réservoirs, différentes boîtes. Donc, il y a deux grands types de boîtes dans une modélisation climatique. D'abord, une boîte qui contient les forçages climatiques naturels, c'est-à-dire la Terre, qui fonctionne toute seule, sans problème. Cette Terre, elle contient une mini-boîte modèle atmosphérique qui modélise les trajectoires et les positions des masses d'air et les températures, et un modèle océanique qui modélise les variations de courant océanique ainsi que les températures de surface. L'interaction entre l'océan et l'atmosphère va être le reflet des forçages climatiques naturels. Donc, à ce forçage climatique naturel, on peut intégrer de nouveaux facteurs. Et un des facteurs qu'on cherche à intégrer, c'est les facteurs émissions de gaz à effet de serre et d'aérosols. Pourquoi on les intègre ? Parce qu'ils sont le reflet des activités humaines. En mettant toutes ces boîtes ensemble, en mélangeant bien avec des ordinateurs, on obtient des simulations de l'évolution de l'environnement pour une période donnée. Donc voici voici un exemple d'une simulation du climat actuel. Donc ici, les modélisateurs ont pris toutes les données existantes sur les variations de température depuis 1900 et ils ont modélisé l'évolution moyenne des températures depuis 1900, donc en hémisphère nord. Donc on voit qu'on a une augmentation graduelle qui s'accélère un petit peu depuis 1960. Et puis ensuite, comme ce sont des... Bon, j'aime bien rigoler. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé les effets des gaz à effet de serre qui peuvent être en lien avec les activités humaines. Et ce qu'on voit, c'est que quand on enlève ces effets de gaz à effet de serre qui peuvent être attribués aux activités humaines, pas tous les gaz, simplement l'augmentation exponentielle qui ne peut être attribuée qu'à l'être humain. Eh bien, on voit que l'évolution des températures dans l'hémisphère nord au cours des 100 dernières années varie, mais varie beaucoup moins. Donc, la différence entre cette courbe-là et cette courbe-là, ça, c'est ce qu'on peut appeler la part anthropique dans le changement climatique actuel. Maintenant, je vais vous parler des simulations futures. Alors, dans les simulations futures, on intègre un nouveau paramètre. Ce paramètre, c'est la décision des gestionnaires. C'est-à-dire, est-ce que nos décisionnaires politiques vont prendre des mesures pour limiter l'émission de gaz à effet de serre, pour se tourner vers des énergies renouvelables. Et ça, selon leurs décisions, on peut mettre en évidence différents scénarios. Donc, il y a des scénarios qui ont des objectifs plus économiques, comme le scénario A1, et A2. Donc A1, on imagine que tous les décisionnaires du monde prennent la même décision de continuer à émettre des gaz à effet de serre selon la même quantité entre chaque pays. Et puis le scénario A2, c'est la régionalisation, c'est le pire, c'est celui où tout le monde continue de polluer comme il veut. Les États-Unis polluent beaucoup, les Scandinaves essayent d'être un petit peu moins polluants, etc. Et on a des objectifs plus environnementaux, qui, eux, sont basés sur les énergies renouvelables, où là, on se dit, les décisionnaires vont décider de réduire de tant de pourcents les émissions de gaz à effet de serre. Et on voit, donc, on intègre ces paramètres-là dans les modèles, et on voit que, en fonction des décisions des gestionnaires, l'augmentation des températures à attendre entre 2000 et 2100 n'est pas la même. Pour une simulation avec des objectifs, on va dire, plus environnementaux, on attend des augmentations de température de l'ordre de 1,1 à 2,9 degrés. Par contre, si on continue avec notre petit scénario A2, tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde émet ses gaz à effet de serre comme il en a envie, on peut attendre des augmentations de l'ordre de 5,4 degrés pour l'année 2100. En sachant juste, pour exemple, que Au dernier maximum glaciaire, le monde était bien différent de celui qu'on connaît et la différence moyenne des températures annuelles était de l'ordre de 5 degrés. Donc je vous laisse imaginer les conséquences d'un réchauffement de l'ordre de 5 degrés sur l'environnement terrestre et sur les populations si on laisse le scénario à deux se réaliser. Voilà, un dernier exemple sur la spatialisation du changement climatique futur. Donc je vous ai montré des courbes, mais ce qui est très intéressant, c'est de montrer des cartes de ce changement climatique. Parce que comme vous le savez, la Terre est très hétérogène, les climats sur Terre sont très hétérogènes, et les régions ne sont pas toutes aussi sensibles au changement climatique les unes que les autres. Si on prend une région qui est particulièrement sensible, c'est le pourtour méditerranéen. Comme vous le savez, comme ça s'est déjà produit au cours de l'histoire, les pays du pourtour méditerranéen ont donné lieu, les relations entre les pays du pourtour méditerranéen ont donné lieu à de nombreux conflits pour une seule et même ressource, c'est l'eau. Des pays ont de l'eau en Méditerranée, d'autres n'en ont pas. Eh bien, si on s'intéresse à la simulation spatiale du changement climatique sur le pourtour méditerranéen et qu'on s'intéresse à ce qui va arriver, donc pour un modèle qui ressemblerait un petit peu à ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire on continue d'émettre des gaz à effet de serre, et on s'intéresse aux années 2080 à 2099, eh bien on voit que sur le pourtour méditerranéen, on peut attendre une augmentation des températures, donc ici ce sont des anomalies de température par rapport à la moyenne, une augmentation qui va de 2 à 5 degrés pour le pourtour méditerranéen, et on pourrait avoir une diminution des précipitations de l'ordre de 30% sur le bassin méditerranéen d'ici 100 ans. Donc voilà, je vais finir là-dessus. Donc les recherches avancent en paléoclimatologie. Malheureusement, ce que je vous ai dit, il y a toujours de nouvelles choses à découvrir, il y a toujours des choses à affiner. On a encore des incertitudes, notamment sur l'évolution des températures locales, puisqu'en un point donné, il est impossible pour l'instant de modéliser, de dire qu'à Beyrouth, il fera tant de degrés supplémentaires. Et le problème, c'est que souvent, les populations sont très localisées. Donc, il y a une réelle nécessité à améliorer nos modèles de façon à préciser le changement climatique d'un point de vue plus local. On ne connaît pas encore l'évolution et la réponse climatique quantitative à l'injection de CO2 dans l'atmosphère. Est-ce que l'océan va faire comme dans les derniers millions d'années, où l'océan, quand il y avait une grosse augmentation de CO2, la productivité primaire explosait dans l'océan et réabsorbait le CO2 pour faire, refroidir le climat. Le problème, c'est qu'on en injecte tellement que je ne suis pas sûre que la productivité primaire soit capable de le faire. Et puis, il y a une autre chose, c'est qu'on ne sait pas quelles seront les injections de CO2 et de méthane et d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère, puisque ça, c'est entre les mains de nos décisionnaires. On ne connaît pas exactement non plus l'ordre de grandeur de l'élévation du niveau marin. On sait à l'heure actuelle que les glaces fondent, que cette glace qui fond se retrouve dans les océans, qu'elle participe à élever le niveau marin, mais on ne sait pas avec quel ordre de grandeur, et ça, il faudra vraiment le préciser, parce qu'il y a énormément de gens qui vivent sur les côtes, et ça entraînerait des conséquences catastrophiques si on ne pouvait pas prévoir ce genre d'aléas climatiques. Et enfin, comme je l'ai montré, on arrive à montrer qu'il y a un impact anthropique grâce à la modélisation, on n'arrive pas encore à quantifier cet impact. À partir du moment où on saura le quantifier, on saura peut-être prendre plus de décisions par rapport à ça. Et ça, c'est encore donc en cours d'étude. Donc tout ça, je pense, fera l'objet du prochain rapport du GIEC qui devrait être publié en 2013-2014. Mais pour l'instant, ça fait le bonheur des climato-sceptiques qui adorent décortiquer nos rapports et prendre une phrase comme ça au hasard et puis lui faire dire ce qu'elle veut. Voilà. Je vous remercie de votre attention.
Alors, bravo et merci, parce que c'était super. Donc, très clair. Comment ? Oui, ben, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, vous voyez, à l'UTB, on a un spectre très large. Hein, voilà. Donc, merci beaucoup pour toutes ces explications. Donc, on va rentrer dans le débat. Simplement, avant de rentrer dans les questions, je rappelle qu'il y a 2 ou 3 ans, je ne me souviens plus, j'ai pas révisé avant, on a eu un exposé très détaillé sur les méthodes de radiodatation.
D'accord.
Par un spécialiste de la chose. Sa présentation et la sono sont disponibles chez les meilleures sources, c'est-à-dire sur le site pour le PowerPoint et au secrétariat pour le son. Hein. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes passionné par ces choses-là, parce que évidemment votre...
vous avez réussi, très vite, hein.
Non, mais vous avez réussi à faire un balayage complet de tout le panorama scientifique. Bon, évidemment, l'exercice ne permettait pas de rentrer dans l'extrême détail. Donc, on a ces choses-là. Bon, puis je vous laisse la parole maintenant. Posez des questions, après je dirai quelques trucs complémentaires éventuellement. Voilà.
Voilà. On parle toujours des gaz à effet de serre et de leurs excès.
Ouais.
En réalité, je crois que les scientifiques, et vous devez connaître ça, finalement ont démontré que les variations de température sont proportionnelles au quotient entre les énergies qui dégagent du CO2 et celles qui n'en dégagent pas.
Oui.
Si on est à 50-50, la température ne bouge pas. Si on est au-dessus de si on est au-dessus de 1, finalement, la température bouge. Alors, tous les spécialistes nous disent que, finalement, les énergies fossiles disparaîtront d'ici 40 à 50 ans maximum.
Oui.
Donc, bien avant 2100.
Alors, ils disent bien ce qu'ils veulent.
Alors, je pose la question, quand les énergies fossiles auront disparu,
oui.
Finalement... le climat, d'après cette équation,
devrait se refroidir.
Va se refroidir.
Le
climat va se refroidir. Et ça, finalement, c'est dans la nuit des temps. Dans la nuit des temps, il n'y aura plus d'énergie fossile.
Oui. Oui, mais enfin, je comprends, oui. De toute façon, oui, si on arrête d'injecter un excès de CO2, de méthane, dans l'atmosphère... on va forcément limiter ce pouvoir de réchauffement. Le problème, c'est, je vous ai parlé du CO2 et du méthane, mais je ne vous ai pas parlé du plus gros gaz à effet de serre qui existe, c'est l'eau.
Le méthane.
C'est l'eau. C'est la vapeur d'eau. Et ça, le problème, c'est que, voilà, les voitures en dégagent, mais tout notre système de, on va dire, industriel est construit là-dessus, sur le dégagement de vapeur d'eau. Donc, on va limiter... Mais le problème, c'est que oui, effectivement, on peut attendre un refroidissement si on diminue, mais on n'en sait rien. On n'en sait rien parce que la machine climatique est une machine complexe qui aura un temps d'inertie. Et ce temps d'inertie, on ne peut pas le quantifier. Est-ce que ça va se refroidir, on va dire, à l'échelle des 50 années qui suivront ? Est-ce que ça va rester, on va dire, est-ce que ça va continuer d'augmenter ? C'est justement le travail de modélisation. C'est d'essayer de voir un petit peu si on fait varier ces paramètres. Qu'est-ce qui va se passer ? Maintenant, c'est vrai que quand on enlève, par rapport aux modélisations du GIEC, quand on enlève cet effet des gaz à effet de serre, on voit que les températures n'augmentent plus, on va dire, avec l'ordre de grandeur qui a été observé.
Le problème, c'est de savoir si elles ne vont pas dégringoler.
Je pense pas.
Non, mais je me passe pas, je me place pas à l'échelon de la vie. Je me place à l'échelon de.
Ah, mais de toute façon, on a une estimation. Hein, on a une estimation de temps de vie. On va arriver au bout de notre temps de vie et la Terre continuera, avec ou sans nous. Ça.
Ce qu'on a vu, ces grandes périodes, c'était à 22 degrés.
Oui, 22 degrés en température moyenne globale. Il fait très chaud quand même.
C'était la plus grande période.
Oui.
J'ai quelques questions à poser.
Oui.
Peut-être un peu gênantes. Enfin, bon.
Non, pas de
questions gênantes. Je voudrais savoir quelle est l'influence des taches solaires sur les forçages, obliquité, excentricité, précession.
En fait, on ne sait pas exactement parce que l'influence des taches solaires, c'est quelque chose qui est très minime et qui a une cyclicité beaucoup plus courte par rapport au cycle d'obliquité et de précession. C'est quelque chose de beaucoup plus localisé, à beaucoup plus court terme. Donc, si vous voulez, cette variabilité, elle est englobée dans les cycles de précession, d'obliquité et d'excentricité.
Alors, J'aurai une enfin, je vais apporter un peu d'eau à votre moulin.
Oui.
En ce qui concerne le climat à la Révolution française.
Oui.
Alors, dans la région, ici, à Châlons, enfin, disons, en Bourgogne, l'hiver 89-90 a été terrible. Il y avait, la Saône était gelée, il y avait 30 à 40 cm de glace.
Oui.
Sur la Saône et tous les affluents. On dit, suivant certains documents d'archives, que le vin gelait dans les caves. Et au mois de janvier 90, il y a eu un réchauffement subit. Ouais. Toutes les glaces ont fondu et ça a cassé deux ponts qui venaient de terminer sur la Seille. Et le pont Saint-Laurent à Châlons est passé juste à côté.
Donc, il faisait bien froid au petit âge
glaciaire. Il faisait très froid.
Donc, c'est pas parce qu'on a fait la révolution que ça a amélioré le climat, quoi.
Bon, puis il y a autre chose que j'ai jamais compris, vous allez peut-être pouvoir me l'expliquer, c'est l'élévation du niveau de la mer.
Oui.
Parce que quand la glace fond,
oui,
elle diminue de volume.
Oui.
Alors, l'augmentation du niveau de la mer, ça serait pas dû simplement à l'élévation de température de l'eau en général.
Oui, mais pas dans l'ordre de grandeur qu'on observe entre une phase glaciaire et une phase interglaciaire. Oui,
parce que moi,
le niveau marin,
pas.
Au dernier maximum glaciaire, il était 120 mètres au plus bas.
L'eau, c'est un liquide ou un solide,
oui,
un peu anormal.
Mais vous le changez de récipient, en fait, pendant les périodes glaciaires. Ah, oui. C'est-à-dire que si vous avez la formation d'une banquise, la banquise, qu'est-ce que c'est? C'est une zone de glace qui flotte sur l'eau. Vous n'avez pas d'élévation du niveau marin. Par contre, si vous prenez cette glace et que vous la mettez sur les continents, eh bien, vous changez la glace de récipient. Elle n'est plus dans l'océan comme la banquise, elle est sur le continent.
Oui.
Donc, vous enlevez... Ben, si vous faites l'expérience, vous prenez un verre d'eau et vous allez faire glacer une partie du verre d'eau. Prenez une quantité, vous prenez une seringue.
Oui.
Vous prenez un verre d'eau, vous allez prendre une quantité d'eau que vous allez faire geler. Vous allez remettre cette quantité d'eau dans votre verre d'eau, vous allez revenir au niveau initial. Mais imaginons que ce glaçon, vous ne le remettiez pas dans le verre, vous le posiez sur le bord du verre, sur les continents. Eh bien, votre niveau reste plus bas.
Ah ben, moi, je ne suis pas d'accord.
Bah si.
On va
ah ben, allez chercher le pastis, on va voir.
Le glaçon, puisqu'il a gelé...
Oui.
Le volume
oui, mais
de glace
il n'est plus dans l'océan.
Au volume d'eau.
Il n'est plus dans l'océan, ce glaçon. On l'a sorti,
ah,
il
ouais,
est
ben
sur
ben
les continents. Ce qu'il faut voir, c'est que pendant les périodes glaciaires, on prend la glace, on prend l'eau des océans et on la stocke à un endroit qui n'est plus l'océan. Donc on pompe de l'eau dans les océans. Et là, maintenant, la fonte des glaciers fait que la glace qui est contenue sur les continents repart dans l'océan et élève le niveau marin. Maintenant, la fonte de la banquise, qui est déjà sur l'océan, ne change pas énormément les choses, puisque on est dans l'océan.
Alors, j'ai une autre question, elle est très intéressée. Elle
oui.
concerne le petit âge glaciaire. Alors, il se trouve qu'à l'UTB, en ce moment, on travaille sur un auteur chalonnais qui s'appelait Philibert Guide, qui a vécu à Châlons au XVe siècle. Et cet auteur a fait surtout de la poésie encyclopédique, a fait en particulier de la poésie encyclopédique. Et il cite, on pense que c'est... il a très peu voyagé, hein, on pense que dans ses citations concernant surtout les végétaux, il parle de plantes qui me paraissent pas du tout adaptables au climat de l'époque. Parce que le climat de l'époque, enfin, si mes renseignements sont exacts, on avait entre 1560 et 1800, par rapport à 1900 et 1960, j'ai trouvé moins 0,5 degrés.
Oui, mais ça a changé énormément de choses. C'est une température moyenne annuelle?
Ouais. Oui, oui.
C'est moyen, parce que oui. ça peut, voilà, si on s'intéresse à la saison ou autre chose, ça peut totalement changer.
Non, non, mais
choses.
C'est une température moyenne.
Moins 0,5 degrés annuels, ça représente un changement climatique pas de grande ampleur, mais c'est quand même significatif à l'échelle d'une région.
Est-ce qu'on peut faire la liaison entre le changement et la nature des végétaux?
Ah oui, oui, puisqu'on s'en sert, quand les palynologues qui reconstituent le climat se servent de changement de la végétation pour reconstituer les paramètres climatiques tels que des températures, la pluviométrie. Ils utilisent ce qu'on appelle une fonction de transfert. Ils utilisent des assemblages de végétation actuels qui retransposent dans le passé. Donc ces assemblages actuels ont des préférences écologiques en termes de température, de quantité de précipitation. Donc on définit bien ces paramètres et ensuite on les intègre dans un modèle qui va redéfinir des paramètres climatiques passés en fonction de ces assemblages végétaux qui vont être retrouvés dans le passé.
On peut soumettre la question au laboratoire de chronologie.
Chrono-environnement, hein? Oui.
Oui.
Ils sont spécialisés là-dedans, il y a énormément de palynologues.
J'ai plus qu'une petite question. qu'est-ce que vous pensez des variations climatiques qui sont corrélées aux dates de vendange?
Qu'est-ce que j'en pense? Ben, j'en pense le plus grand bien. Je veux dire, oui, c'est normal. Hein? C'est normal.
Non, parce que j'ai essayé de faire des recoupements pour cette personne, pour cette période-là qui m'intéresse. Et bon, ben, c'est pas très net. Hein, il s'en fout.
Bon, après, voilà.
C'est
mais
très difficile à interpréter.
D'un point de vue, déjà, enfin, il y a énormément d'incertitudes sur ce genre de choses. On sait qu'il y a les paramètres climatiques qui varient. Maintenant, c'est ce que je disais, on a une hétérogénéité des climats. On a, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un vin qui est si riche ici. C'est qu'à Nolay et à Nuits-Saint-Georges, on a ce qu'on appelle des climats. Et ouais. Et ces climats, eh ben, ils sont différents d'un vin à l'autre. Donc, si vous voulez recouper ce genre d'informations, il faut prendre en compte. Oui.
Les climats, ils sont dus surtout aux variations géologiques du terrain.
Oui, mais il y a quand même. Eh ben, ces variations géologiques peuvent être prises en compte, puisqu'une plante a des préférences écologiques en termes de température et de pluviométrie, mais elle a aussi des préférences écologiques en termes de substrat. Et un pinot noir se sentira peut-être mieux à certaines températures, sous certaines précipitations, dans un substrat qui est plus ou moins bien drainé. Donc, il pleut plus dans un substrat drainé et il pleut plus dans un substrat moins bien drainé. Ça donne deux vins différents. C'est... Voilà. Mais je ne suis pas viticultrice. Hein.
Non, mais elle a fait ses études à Chalon, donc elle connaît quand même un peu.
Ça va.
Moi, je me suis servi des tables qui a produit le roi Naguri.
Oui.
Voilà.
Ouais.
Le roi Ladurie, si on arrive à le faire venir, mais il est un petit peu fatigué maintenant, hein, le roi Ladurie. Y a-t-il d'autres questions?
Est-ce que la désalinisation des océans a une incidence?
La désalinisation,
oui. C'est-à-dire que comme la banquise, enfin les glaciers fondent, ils modifient la salinité des
tout
océans.
Oui, ça y est, je vois.
Est-ce que ça a une
En fait, oui, ça a une influence. Ça a une influence sur la circulation thermohaline. Si on prend l'exemple donc des circulations océaniques, le fait que la banquise fonde, on injecte de l'eau froide, douce, qui est plus dense, qui va plonger au fond des océans et qui va modifier les courants océaniques, puisqu'on va ralentir le Gulf Stream, par exemple. Donc, on va ralentir l'apport de chaleur qui arrive de l'équateur. Le problème, c'est qu'on arrive encore assez mal à comprendre qu'on puisse ralentir le Gulf Stream et entraîner un réchauffement au niveau des continents. Il y a un truc qui ne va pas. En général, le Gulf Stream apporte de la chaleur. Donc, les paléocéanographes travaillent là-dessus pour bien comprendre, mais c'est quelque chose d'assez difficile à cerner parce que cette circulation des eaux profondes, parce que quand la banquise fond, ces eaux denses plongent tout de suite au fond des océans et il n'y a aucun moyen d'aller voir ce qui se passe. On est quand même dans des environnements, je ne sais plus quel scientifique disait qu'on connaissait mieux l'espace que les fonds océaniques. Eh bien, c'est exactement le cas. Maintenant, ce qui se passe au fond des océans, on a beaucoup de mal à le savoir. Et c'est exactement ce qui se passe lors de la fonte des glaces. Mais ça, en effet, c'est sûr.
Y a-t-il d'autres questions? Oui, mais il faudrait venir là pour qu'on entende.
L'effet de serre, est-ce qu'il est mesurable en laboratoire? Je m'explique. la couche d'air qui nous domine, la couche de gaz qui nous domine, mm-hmm. 30 km. Je mets à part l'oxygène et l'azote et la vapeur d'eau. Mais les deux ennemis contre lesquels on lutte, il y a le CO2, là, qui est 50% plus lourd que l'air. Et puis le second, le méthane, qui est 50% plus léger que l'air.
Oui.
Alors comment cela se distribue-t-il? Est-ce qu'il y a des mesures reproductibles en laboratoire?
Alors là, vous me posez une colle, parce que s'il y a un endroit que je ne connais pas très bien, c'est là, c'est l'atmosphère. Je suis plutôt aquatique comme fille, moi, donc... donc je travaille dans...
Ce que dit Antoine, c'est vrai, mais bon, les phénomènes de brassage, finalement, dans l'atmosphère, de ce qu'on dit... Le CO2 qui est dans la cave, il ne faut pas se baisser, voilà, d'accord, ok. Mais là, il n'y a pas des vents de 200 km/h dans le fond de ta cave, ça c'est clair. Donc ça doit arranger. Alors, je voudrais évoquer un gaz à effet de serre, donc le méthane, on en parle beaucoup, disons, le pet de termite, on va dire, et le pet des bovins, hein. Et le P de qui que ce soit, d'ailleurs. Il y a des chercheurs qui ont dit que le P de termites avait une influence, parce qu'il y a beaucoup de termites en Amazon, donc avec beaucoup de termites qui font beaucoup de petits P, ça finit par faire beaucoup de tonnes de méthane. Mais enfin, bon, ça, c'est pour la blague. Il y a quelque chose auquel on ne pense pas, qui a été découvert très récemment, c'est les fuites sur les puits d'exploitation de gaz. C'est-à-dire que, par exemple, à Houston, mais c'est très récent, c'est l'année dernière, on a mesuré, maintenant on met des systèmes de surveillance de l'air dans les grandes villes pour voir, et donc on cherche le NO, le NO2, et aux surprises, à Houston, on a vu un pourcentage de méthane inexpliqué au premier degré. Et à force de chercher, ils ont fini par découvrir que l'estimation jusqu'à présent, c'était que seul 1% de la production globale de gaz fuyait au niveau des puits. Maintenant, on est plutôt au niveau mondial sur un terme de 4%, en faisant des extrapolations sur les quelques mesures qui ont été faites. Donc c'est un truc qu'on a trouvé assez récemment. Et donc, dans le GIEC, je pense qu'il y aura sûrement un petit chapitre dans le pavé.
Je peux rajouter quelque chose là-dessus, il y a un film qui existe, un documentaire qui s'appelle Gazland. Oui. Qui parle de ces exploitations à gaz de schiste, où à un moment ils font l'expérience, c'est-à-dire qu'ils ouvrent le robinet d'eau et ils approchent un briquet et le robinet s'enflamme. Oui. Et ce qu'il faut savoir, parce que ça il faut vraiment que vous en ayez conscience, c'est que je ne sais plus si c'est Total ou Elf qui a lancé un projet d'exploitation à gaz de schiste dans le Jura, parce qu'il y a des gaz de schiste. Et pour l'instant, vu que c'était apparemment c'était les élections présidentielles, etc.
Alors, nous, on ne recule devant aucune difficulté et nous aurons une conférence sur le gaz de schiste par le Total Gas Shale Europe responsable au printemps. On mettra cette fois-là les gros bras à l'entrée parce que. Je vous informe, on a eu un incident majeur à une conférence sur l'enrichissement de l'uranium. On a eu des anarchistes qui sont venus perturbés, plus que perturbés. Ça a failli se terminer par un pugilat général. Il a fallu faire venir les flics. On a cru au début que c'était des écologistes. On les accepte, hein, il n'y a pas de problème et qu'on peut discuter. Mais non, ils étaient avec les trompes de foot. Les ukulélés. Oui. Et donc, ça a été sportif. Ben oui, mais c'est comme ça. Hein. C'est la vie. Hein. Donc, on assume. Mais là, maintenant, on est un petit peu prévenu. Donc, l'objectif, c'était pas de discuter, c'était d'empêcher que la conférence se tienne. Comment ?
Qu'est-ce qu'on exploitait au Tello pendant la guerre ?
Oui ?
Comment ? Oui, c'était du bitumineux, c'était du bitume. C'était du pétrole, du pas bon pétrole, enfin du pétrole pas fini, quoi.
Donc l'objectif de la conférence, c'est pas de faire la promotion du gaz de schiste, c'est qu'on nous explique de quoi il retourne et quels sont tous les tenants et les aboutissants du dossier. Et disons des... Comment ?
Ah oui, parce que ben je oui, pense mais que là, on aura vous vendra très bien
non,
le truc. Hein.
On aura quelqu'un... Oui, mais enfin, disons, il faut avoir les deux à condition que les gens qui sont contre soient acceptent la discussion. C'est-à-dire que on a eu des écolos sur les énergies renouvelables, et donc il y a eu quand même un embryon de discussion qui n'a pas été enfin musclé, même s'il a été vif. Donc là, il n'y a pas de problème, hein, c'est fait pour ça. Mais là, on aura quelqu'un qui est, on va dire, a priori pro, puisqu'il représente une compagnie gazière, mais enfin, qu'au moins il explique la technique, puisque finalement, tout le monde en parle, mais personne ne dit de quoi il s'agit. Alors l'objectif de la conférence... Oui ?
Oui, oui,
tout à fait. Donc, eh bien, on verra bien. Donc on essaie... Oui ?
On parle d'effets de gaz à effet de serre, donc le CO2, mais on dit aussi qu'il y a un cercle vicieux qui se mettrait en route, c'est-à-dire réchauffement de la Terre, et le gaz, le CO2 dissous dans les océans reviendrait à la surface et accélérerait
ouais,
le processus.
Oui, il y a des dégagements voilà. De CO2, mais il y a en fait... On peut attendre, face au réchauffement climatique, en fait, la libération de certaines poches de gaz qui sont situées au fond des océans, mais également dans les sols gelés, donc le permafrost. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à quantifier. Il y a des gens qui disent qu'on pourrait libérer une quantité phénoménale de gaz. On n'arrive pas vraiment à quantifier. Donc... Mais ce n'est pas le problème, on va dire, le plus...
Oui, mais tout va dans le mauvais sens, quoi. On est même dans le cercle vicieux et non
oui,
pas
mais
le cercle vertueux.
On ne peut pas dire tout va dans le mauvais sens. Oui, si on est anthropocentré, tout va dans le mauvais sens pour nous. Mais la Terre fait sa petite vie, là. Elle est dans une phase de réchauffement. Après, que nous, on survive ou pas, je suis désolée d'être un peu extrémiste, mais on est une espèce parmi tant d'autres. On a une durée de vie. C'est tout. Donc là, la Terre est en train de faire, on l'influence par nos activités, on essaye de minimiser les choses parce que le problème, c'est qu'en faisant ce qu'on fait actuellement d'un point de vue émission de gaz à effet de serre, on a peut-être une part de responsabilité dans l'accélération de ce réchauffement et que la Terre, se rebelle un petit peu, on a l'impression, mais si ça se trouve, elle ne se rebelle pas du tout. On ne la connaît pas, la Terre, finalement. Nous, enfin,
je ne sais pas qui a dit que la Terre se portera beaucoup mieux quand l'homme aura disparu.
Non, parce qu'il y aura une nouvelle espèce dominante qui apparaîtra. Et peut-être qu'elle sera pire que nous. On n'en sait rien. Des hommes aquatiques, je ne sais pas.
Concernant les émissions de méthane, on a prétendu à une certaine époque que l'augmentation de consommation de la viande sur le globe provoquait, de par les excréments des animaux, provoquait une augmentation sensible du méthane.
Effectivement, la viande fermente plus dans l'intestin, apparemment. Enfin, il y a quelque chose.
C'est important ou
pas ? Non, mais c'est ridicule, je veux dire, c'est des détails, quoi. Je veux dire, c'est pas parce qu'on mange plus de viande que... Mais par contre, l'industrie de la viande... est une industrie extrêmement polluante.
Oui, mais... En fait,
mais nous, on mange de la viande, bon, je vois pas le... Mais par contre, oui, l'industrie de la viande... Ah bah oui.
Bien, là, donc le sujet, on l'a pas épuisé. J'espère que vous n'êtes pas épuisé. Donc on remercie encore très vivement Madame Devel qui a fait un exposé d'une clarté, d'une pédagogie parfaite. Bravo Yvette. Tu es un prof génial. Hein, voilà. Allez, et à la prochaine.